les podcasts de Radio Vatican.
Le 30 mars 2016, la Birmanie connaissait son premier président civil depuis 1962. Un an après la prestation de serment du président Thin Kya, l'état du pays n'est pas reluisant, les guerres ethniques continuent, la croissance ralentit et l'inflation grimpe. Même l'icône de l'ancienne dissidence, Aung San Suu Kyi, devenue conseillère spéciale et porte-parole de la présidence, est critiquée pour son silence face aux exactions des forces de l'ordre contre la minorité Rohingya. Alors quel bilan tirer de cette année au pouvoir de la Ligue nationale pour la démocratie et quelle est la responsabilité du parti d'Aung San Suu Kyi, freiné par les militaires toujours présents dans l'ombre? Les réponses de Mireille Boisson, spécialiste de la Birmanie à Amnesty International.
La réconciliation nationale, elle n'existe pas en ce moment. Il y a les guerres ethniques traditionnelles et les conflits continuent et ça continue à déplacer des personnes, énormément de gens qui fuient les conflits. Et il y a régulièrement des réunions, mais il faut dire que les groupes armés ethniques ne font pas beaucoup d'efforts pour s'entendre. On voudrait faire ce qu'ils appellent le Panglong 2. Le Panglong 1, c'était après l'indépendance de la Birmanie, c'était pour faire cesser les guerres ethniques qui n'ont jamais vraiment cessé, et Panglong 2 n'a pas l'air d'aboutir davantage, parce que certains veulent bien siéger avec certains groupes, d'autres avec d'autres groupes, l'opposition Shan se divise, se fragmente et se refragmente, et ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Pour le moment, il y a des tentatives régulièrement, et qui régulièrement échouent par la mauvaise volonté probablement de toutes les parties. Il y a des attaques. Alors, de temps en temps, c'est l'armée birmane qui attaque. De temps en temps, c'est les groupes armés divisés qui s'attaquent entre eux. Et de toute façon, c'est les populations civiles qui sont victimes.
Autre groupe ethnique qui n'est pas concerné par les négociations, mais dont on parle beaucoup car ses membres fuient les violences, la minorité musulmane Rohingya. Y a-t-il une volonté du gouvernement de régler cette question ?
De résoudre, j'aurais tendance à pas le croire. Parce que l'armée birmane, quand elle veut maîtriser une manifestation, sait très bien le faire. Alors que, par exemple, quand l'envoyé spécial de l'ONU pour la Birmanie vient en Birmanie pour discuter de la question des Rohingyas, elle ne peut même pas quitter l'aéroport de Sitwe, la capitale de l'État d'Arakan, où sont majoritairement les Rohingyas, parce qu'il y a des manifestations de bouddhistes devant l'aéroport. Et quand même, l'armée birmane est bien capable d'arrêter une manifestation. Et puis, si elle voulait arrêter le fauteur de troubles, je vais dire, si elle voulait arrêter Ouiratou, qui sème la haine, elle aurait pu il y a longtemps. Il a été ordonné à la Birmanie de recevoir une commission d'enquête de l'ONU sur ces conflits et puis toutes les violations des droits de l'homme qui en découlent. Et en plus, Amnesty International a demandé que cette commission d'enquête soit nommée rapidement et qu'il y ait beaucoup de femmes dans les gens qui seront chargés de mener l'enquête parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme à caractère sexuel. Maintenant, la Birmanie commence à dire qu'elle la refuse. Jusqu'où peut-elle la refuser ? C'est se couper de la communauté internationale et prendre le risque de sanctions. Et je crois qu'on n'a pas envie de resanctionner la Birmanie économiquement. On aurait plutôt envie de la voir se développer. Donc c'est au gouvernement birman de peser les pour et les contre maintenant.
Alors, outre ces questions ethniques, il y a une autre source de critique. C'est celle concernant les réformes économiques et sociales qui tarderaient à arriver. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire ?
Il reste beaucoup à faire. Il faut dire que Aung San Suu Kyi a trouvé un pays dans un état de déréliction avancée, même avec la levée des sanctions par l'Union européenne et la levée partielle de la liste noire, c'est-à-dire des entreprises avec lesquelles il ne fallait pas travailler par les États-Unis, les investisseurs ne se sont pas précipités parce qu'il y a une absence de loi encadrant les investissements étrangers. Alors, il y a tout un arsenal juridique qui est à créer, qui commence à se mettre en route. On en est, par exemple, à faire un projet de loi pour expliquer quels cadeaux les fonctionnaires peuvent ou ne peuvent pas accepter. Ça donne une idée de la corruption qu'il peut y avoir. Donc, les investisseurs qui viennent actuellement, ce sont essentiellement les Chinois et les Thaïlandais qui n'ont pas de tradition de respect des travailleurs, en tout cas, et du droit du travail. Les investisseurs étrangers n'ont pas envie d'investir lourdement, sans garantie.
Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le gouvernement birman est un peu prisonnier d'une constitution qui laisse encore une large part à l'armée ?
Il est totalement prisonnier de cette constitution qui laisse une large part à l'armée et dans l'état actuel, il est impossible de réviser la constitution puisque dans les deux chambres, les militaires qui ne sont pas élus mais nommés, donc selon la Constitution, peuvent bloquer toute réforme de la Constitution. Et récemment, le conseiller juridique de la NLD, du parti d'Aung San Suu Kyi, et qui avait créé ce poste de conseiller de la présidence pour Aung San Suu Kyi, qui ne pouvait pas être présidente, proposait non pas une réforme de la Constitution, il disait « il n'y a rien à réformer, il faut la réécrire et supprimer ces postes militaires ». Et cet homme-là a été assassiné au vu et au su de tout le monde à l'aéroport de Rangoon, alors qu'il rentrait de Malaisie, parce que c'est l'ennemi des militaires dans ce sens-là. Tous ceux qui ont été arrêtés jusqu'ici, ce sont tous des gens en rapport avec l'armée. C'est-à-dire que l'armée ne bouge pas tant que ses intérêts ne sont pas menacés. Que ce soit Aung San Suu Kyi, que ce soit le président, ils sont tous coincés dans cet espace étroit où il ne faut pas déplaire à l'armée et pas toucher à ses intérêts.
Ce sont des intérêts politiques, mais des intérêts aussi économiques.
Économiques, énormes. Il y a actuellement des stations balnéaires qui sont en train de se créer en Arakan pour attirer les investissements étrangers, les touristes étrangers. Tout ça est aux mains de l'armée. La zone franche qui n'en finit pas d'être en début de création, on se demande si elle arrivera un jour, c'est les doigts de l'armée. Et puis, ceux qui détenaient toutes les ficelles de l'économie avant l'arrivée au pouvoir, et j'y mets des grands guillemets, de la NLD, du parti d'Aung San Suu Kyi, sont toujours en place et continuent à tirer les ficelles. Et je vous dis, les investisseurs qui viennent, c'est les Thaïlandais, les Chinois, qui investissent prudemment, et ce n'est pas les grands investisseurs étrangers auxquels on peut faire appel, qui auraient plus le souci de l'environnement, de respecter les droits fondamentaux des travailleurs. Non, ils n'y viennent pas tant qu'il n'y a pas de loi solide. Alors, elle est en discussion au Parlement, mais ils n'ont pas l'habitude de faire des lois pour protéger aussi bien les investisseurs que les travailleurs.
Pour revenir sur la figure d'Aung San Suu Kyi, qui est quand même celle la plus médiatique, on a l'impression qu'elle s'est un peu mise en retrait sur certains dossiers, comme les Rohingyas, sur d'autres. Comment est-ce qu'elle a vécu cette première année au pouvoir? Comment est-ce que aussi l'opinion publique la considère?
Alors, l'opinion publique, ça, c'est difficile à savoir. Elle a été élue massivement. Il y avait, la tradition de son père, il y avait une idolâtrie de l'héroïne. Et on attendait beaucoup d'elle, mais elle ne pouvait pas tout faire, il ne fallait pas l'idolâtrer. Et elle l'a vécu en acceptant, puisqu'elle ne peut pas être présidente, ce rôle de conseiller de la présidence, mais elle n'est que conseiller, elle n'a pas d'autre pouvoir que de conseiller. Elle est dans beaucoup de commissions, entre autres le Panglong 2, là, pour essayer d'établir la paix dans les régions ethniques, sur des affaires économiques. Elle est dans beaucoup trop de commissions pour pouvoir y être efficace. Mais on attendait d'elle qu'elle soit partout. C'est pas Superwoman. Et dans un pays, je vous dis, où la tradition de corruption et de personnalisation du pouvoir est ancrée depuis trop longtemps. Il faut laisser le temps au temps, je crois. Les Occidentaux, on est tous très déçus de son manque de condamnation des bouddhistes contre les Rohingyas. Mais elle est bouddhiste. L'armée est essentiellement bouddhiste. Et est-ce qu'elle peut faire tout éclater? Ou est-ce qu'elle doit avancer à petits pas prudents? Et elle est dans une position très difficile.
J'ai vu aussi qu'il y avait des élections partielles le 1er avril. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence?
Peut-être on verra apparaître de nouvelles personnes. On verra peut-être apparaître les gens qui, selon moi, devraient émerger depuis longtemps, c'est-à-dire ce qu'on appelle génération 99, les étudiants qui ont fait des tas d'années de prison, qui sont aussi dans de nombreuses commissions maintenant, mais qui ont peut-être pas le poids de l'idolâtrie qu'a dû porter Aung San Suu Kyi, et qui en même temps ont des visions politiques. Il y en a un certain nombre qu'on espérait voir arriver, et probablement on les verra émerger. Ça sera une génération plus jeune, qui aura une vraie vision politique peut-être, et qui seront capables peut-être de créer des partis politiques.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.